Merci beaucoup. Donc je suis Henri Valens, le responsable qualité du centre de résonance magnétique des systèmes biologiques, et je vais vous parler donc de la démarche qualité au sein de notre laboratoire. Alors tout d'abord, effectivement, on a parlé un peu, Thierry l'a bien dit, moi j'ai regardé ailleurs effectivement au niveau de la définition de la démarche qualité. Et quand on regarde ça, en général, ce qu'on regarde, donc là c'est la définition que j'ai retrouvée dans Wikipédia, c'est on commence à dire la démarche qualité est une notion de système de la gestion qualité, elle constitue principalement une démarche de management. Et puis après on voit qu'elle peut s'appliquer, bon, grosso modo, à tout le monde et qu'elle est basée essentiellement sur la norme ISO 9001. Donc souvent, quand on commence à regarder ça et qu'on va un peu plus profondément, sans aller dans la grosse Bible, on a la tête du petit smiley là, qui est ici. Et non, ça va mal. Mais il y a un autre moyen d'aborder la démarche qualité, c'est une démarche beaucoup plus pragmatique. C'est se dire qu'on peut identifier les dysfonctionnements. Alors moi je mets ensemble parce qu'une démarche qualité, ça doit être une démarche comment dire, en équipe et collaborative. C'est vraiment, donc Thierry a parlé des espaces collaboratifs de travail. Donc ça c'est bien, c'est l'outil informatique, mais ça doit être une démarche en équipe. Donc c'est identifier des dysfonctionnements ensemble, essayer d'y remédier. Et ensuite vérifier que les actions engagées sont efficaces. Donc ça c'est une autre manière donc ça c'est l'amélioration continue, et c'est aussi une autre manière de décliner à la route des mines. Donc c'était grosso modo, donc ça c'est, je vous présente ça au début parce que c'est ce qui est la philosophie de toute la démarche, de toutes les actions qui ont suivi au sein du laboratoire. Et aussi pour vous replacer un peu notre système, donc notre monde. Donc nous au centre, on est quand même donc des laboratoires de recherche, et donc le centre c'est la créativité, et donc qui est ensuite, comment dire, valorisé par dans notre milieu par les publications. Donc c'est vraiment le centre, le cœur de notre métier. Et cette créativité ne peut exister et ne peut être suivi que grâce à la traçabilité, à la mémoire des laboratoires, mais aussi, donc ça c'est dans tous les cas, la fiabilité des résultats, mais aussi la fiabilité des mesures et leur reproductibilité. Donc ça c'est ce qui entoure la créativité. Mais ensuite, autour, bon, c'est pour ça que c'est des cercles, c'est comme une cible, il y a la formation, il y a des projets, la valorisation de ce qui a été fait, et bien sûr l'organisation. Et tout ça ne peut exister que grâce au financement, bien sûr, à l'administration qui est là, aux plateformes techniques, à l'informatique, aux infrastructures, à l'environnement, à la sécurité. Et tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a la créativité, et ensuite, on s'éloigne de plus en plus. Mais tout ça ne peut exister que grâce à tout ce système organisationnel. Et tout autour, pour encadrer tout ça, pour bien formaliser tout ça, il y a la qualité qui peut se décliner en plusieurs choses, donc qui est formalisée plus par les normes ISO 9001, donc les BPL, c'est bonnes pratiques de laboratoire, BPC, bonnes pratiques cliniques, l'accréditation, BPF, c'est bonnes pratiques de fabrication, etc., différentes normes. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a la créativité au centre, et ensuite que cette créativité ne peut exister que parce qu'il y a plein de choses autour qui lui permettent de s'exprimer. Donc là, je vais redescendre plus au niveau du laboratoire. Donc nous, comparé aux autres laboratoires, on est une petite équipe d'une trentaine de personnes. Donc on est une équipe qui travaille en RMN, résonance magnétique, et aussi en IRM, imagerie en résonance magnétique. Donc on est avec cinq thématiques. Bon, je vais pas détailler, Jean-Michel en parlera après. Donc effectivement, on va présenter, je ne l'ai pas dit au début, on va présenter cette présentation en duo. Donc moi qui suis le responsable qualité, et ensuite Jean-Michel parlera plus du point de vue du directeur. Donc voilà notre équipe, c'est pour montrer. Donc on est situé sur le campus de Carrère, donc à Bordeaux 2. Donc c'est juste pour vous montrer. Et donc notre laboratoire, donc c'est donc le centre résonance magnétique des systèmes biologiques. On est donc une petite unité donc de 49 personnes et 32 permanents, financés par le CNRS et l'université. L'émission du laboratoire, donc il y en a deux principales qui ont été dégagées. Donc c'est utiliser la RMN pour réaliser des recherches en sciences de la vie et copiloter aussi une plateforme opérationnelle Rio Ibiza pour la RMN in vitro. Donc, je passe rapidement sur la plateforme, donc qui est composée de notre côté de quatre spectromètres imageurs, donc un à bas champ qui permet effectivement de faire de l'imagerie, qui permet de faire l'imagerie, un à 4,7 Tesla qui permet de faire à la fois de l'imagerie et de la spectrométrie, un autre à 9,7 Tesla, donc à plus haut champ, qui permet aussi de faire les deux, imagerie, et un autre à 11,6 Tesla qui permet uniquement de faire de la spectroscopie. Alors, pourquoi notre petite unité s'est lancée dans la démarche qualité? Donc, les motivations, la première, elle est souvent revenue sous différentes formes, mais c'est vraiment la mémoire du laboratoire. Donc ça, c'est un besoin, parce que de plus en plus, les personnes qui travaillent dans nos laboratoires sont là sur des périodes courtes. Et donc, il faut qu'elles soient capables de se mettre au travail rapidement, de connaître ce qui se passe au laboratoire, mais aussi quand elles partent, de laisser une trace de leur savoir-faire et qu'on soit capable de le réutiliser. Donc ça, c'était vraiment notre première motivation. Deuxième motivation, comme je vous l'ai dit, on est plateforme Rio, plateforme technologique. Et donc dans ce cadre-là, on avait vraiment besoin de formaliser nos collaborations et aussi les prestations qu'on fournit à l'extérieur. Et donc on est une plateforme technologique avec des instruments de haute technologie. Et donc on avait besoin de connaître la fiabilité de nos instruments et aussi de par là de nos résultats. Alors bien sûr, il existe des tests qualité au niveau de l'instrumentation qui sont bien connus, qu'on peut répéter, mais nous on avait besoin de quelque chose en plus, d'avoir des tests de qualité et de connaître la fiabilité de nos instruments dans nos conditions de travail. Parce que les tests constructeurs, c'est sur des échantillons qui ne sont pas forcément biologiques, dans des conditions bien précises. Nous on voulait connaître dans nos conditions exactement. Et bien sûr, donc après, avoir une meilleure organisation du laboratoire et améliorer l'image du laboratoire vis-à-vis de l'extérieur. Alors, comment on s'y est pris? Donc, de manière très pratique. On a commencé par faire une sensibilisation à la démarche qualité. C'est-à-dire qu'on a expliqué à l'ensemble du laboratoire, c'est pour ça que j'ai insisté sur travailler ensemble. C'est vraiment une démarche collective. On a expliqué à tout le monde ce qu'était la qualité et notre manière de la voir. C'est-à-dire que c'était vraiment dans l'axe de l'amélioration continue. Une fois qu'on a bien expliqué ça, on s'est réunis et on a défini sur quoi on voulait travailler et comment on allait travailler. C'est-à-dire qu'on a fait des groupes de travail, vous allez voir ensuite lesquels. On a défini l'objectif de chaque groupe et l'organisation du groupe. Alors l'organisation du groupe, c'était comment on allait communiquer l'information, comment on allait se réunir, comment il y allait avoir des comptes rendus, enfin tout ça, vraiment l'organisation très très pratique. Ça c'était important. De là est sorti quatre groupes de travail, enfin essentiellement trois au départ, et il y en a un d'autre qui est arrivé après. Et ensuite, vous allez voir, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont suivi. Donc ça, c'est chronologiquement. Un premier groupe de travail qui était les bonnes pratiques de laboratoire. Je détaillerai après les objectifs. Hein. Donc c'est essentiellement travailler sur la vie du laboratoire, la vie instrumentale, disons, du laboratoire. Un deuxième groupe qui était donc ça, c'était plus lié à la plateforme, comment organiser et formaliser nos collaborations et nos prestations. Un autre groupe donc qui est vraiment lié à notre activité, c'était travailler sur l'instrumentation RMN et IRM. Et un quatrième groupe qui est venu un peu plus tard, grâce effectivement au travail des trois premiers, qui était la gestion en projet, dont Jean-Michel vous parlera un peu plus en détail. Alors, on en a parlé beaucoup. Le premier écueil, lorsqu'on se lance dans la démarche qualité, c'est la communication de l'information et la traçabilité des données. Donc, est associé souvent à la qualité. C'est pour ça que souvent, on passe le mot qualité sous silence, paperasserie, montagne de documentation et tout ça. Et c'est vrai que nous, on a voulu au départ éviter ça. Donc, on a commencé à travailler c'est un wiki, par un intranet sur lequel il y avait l'information. Alors, au début, bon, ça, c'est la version actuelle. Hein. Au début, cet intranet était dédié uniquement à l'information qualité. Et rapidement, il a explosé pour mettre tout ce qui était l'information de vie du laboratoire. Donc là, je vous montre l'intranet général. Et bien sûr, il y a l'espace l'espace qualité, dans lequel vous pouvez retrouver les différents groupes de travail avec l'ensemble des comptes rendus, les procédures qui ont été réalisées, tout ça. Donc ça, c'est ce qui reprend un peu l'outil qui a été développé, enfin, qui est utilisé par Thierry. Et il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres outils. Et donc, je vous parlerai un peu après aussi des différentes ressources et différents au niveau national en qualité en recherche. Je dirai un petit mot à la fin. Donc ça, c'est un outil qui est un outil libre. C'est l'outil qui est utilisé par Wikipédia, pour ceux qui connaissent. Alors maintenant, je vais parler des objectifs des groupes de travail. Donc le premier, c'était bonne pratique de laboratoire. Donc l'objectif principal, c'était préserver la mémoire du laboratoire. Alors, on a identifié à travers cet objectif ce dont on avait besoin. On s'est rendu compte qu'au niveau du laboratoire, il y avait un savoir-faire énorme, et on est situé, nous, sur deux étages, avec un mélange de physiciens, de biologistes et tout ça, et qu'il y avait énormément de savoir-faire, mais entre les différentes équipes, entre les différentes personnes, il y avait des techniques qui étaient disponibles, et on allait chercher des techniques qui étaient disponibles au laboratoire, alors qu'elles étaient en dehors du laboratoire, alors qu'elles étaient disponibles dans le bureau d'à côté. Donc on a mis en place une base de connaissances de l'ensemble des listes qui étaient connues au laboratoire. Et donc aussi on a voulu intégrer tous les problèmes d'hygiène et sécurité au niveau des bonnes pratiques de notre laboratoire, ainsi que conserver le savoir-faire. Donc ça s'est fait notamment à travers les cahiers de laboratoire. On voulait aussi communiquer de manière efficace les techniques et bien sûr communiquer notre savoir-faire vers l'extérieur. Alors comment, donc là je vous montre un exemple de ce qui a été mis en place. Au niveau des techniques de laboratoire, quelque chose qui a été rapidement mis en place et de manière simple, on a demandé à l'ensemble des personnes la liste des techniques qu'ils connaissaient. On a fait un listing juste avec donc le nom de la technique, le dépositaire, donc savoir à qui il fallait se renseigner, et une catégorie pour faciliter les classements. Donc vous avez sur l'intranet la liste des techniques, et il suffit de, donc après je vais passer au suivant, il suffit de cliquer, on a par exemple le protocole. Alors ça c'est pareil, c'est sur la volonté des personnes. Donc il y a au moins la liste des techniques, et les personnes rentrent leur protocole pour la mettre à disposition de la communauté. Bien sûr, c'est un intranet, donc c'est réservé à notre laboratoire et ce n'est pas accessible de l'extérieur. Et donc au départ, c'était juste pour communiquer au niveau des techniques. Et l'évolution a fait que ce système est devenu aussi une mémoire vraiment du laboratoire, parce que les étudiants, lorsqu'ils sont partis, on leur a demandé de mettre leurs techniques qu'ils avaient utilisées sur cet intranet. Et donc maintenant, c'est comme ça que c'est conservé, les techniques, les protocoles sont conservés là-dessus. Donc on a voulu rester de manière très souple, et on n'a pas mis pour que les gens puissent transposer directement les documents qu'ils avaient, on n'a pas mis de règles de rédaction. La seule règle qu'on a demandée, c'est ce que vous voyez ici en haut, c'est mettre un paragraphe d'hygiène et sécurité ou de précaution particulière, s'il y en avait besoin. Donc c'est la seule contrainte que l'on a demandée. Et comme c'est un wiki, on peut modifier directement à travers le site, directement le protocole. Alors bien sûr, donc comme c'est uniquement accessible à l'intranet, il n'y a pas de contrôle réellement de ce qui est rentré. C'est validé par les pairs, mais par contre, il y a un suivi de toutes les modifications qui ont été faites, avec l'historique, et il faut avoir un mot de passe et un login quand même pour se loguer, mais automatiquement le mot de passe et login est donné à l'ensemble du personnel du laboratoire. Il y a aussi dans les différents outils qui ont été mis, c'est une base de données avec l'ensemble des produits du laboratoire pour faire une recherche. Donc ça, c'est dans les outils les plus utilisés. Donc là, il suffit de rentrer le nom du produit et on a la liste des produits, et avec le lieu. Donc là, j'ai amélioré dernièrement. Maintenant, quand on clique sur le lieu, on a le plan du laboratoire avec la pièce où est rangé le produit. Donc ça, c'est des outils qui sont vraiment très utilisés. Et donc on peut le mettre à jour en temps réel. Alors bien sûr, la quantité, on n'est pas encore arrivé au niveau des codes barres. La quantité, c'est juste la quantité qui est écrite sur le flacon. Alors si le flacon est vide, effectivement, il y a encore des pistes d'amélioration. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Donc je parlais de l'autre groupe de travail qui était instrumentation. Donc là, l'objectif, c'était clair, c'était établir des tests de reproductibilité en module indépendant pour détecter les résultats non conformes. Donc c'était vraiment essayer de voir si, lorsqu'un appareil avait un problème, qu'on puisse le mettre en évidence. Parce que comme on est dans un milieu biologique, lorsque on a des résultats un peu bizarres et tout ça, on a toujours un doute de savoir si le résultat surprenant vient de l'échantillon ou vient d'un problème sur la machine. Donc il fallait qu'on ait ait des tests qui nous permettent de dire non, ce n'est pas la machine, c'est vraiment l'échantillon. Ou oui, là, effectivement, il y a un problème sur la machine, il fallait vraiment qu'on ait ça. Donc, on a mis en place différents tests. Alors, c'est pareil là. Au début, quand on a commencé, donc on a mis en place un système avec un tableau et tout. Et là, au bout d'un an, on s'est rendu compte que, au début, le tableau nous convenait bien. Et puis, on s'est dit, mais quand on a accumulé tous les résultats, ben voilà, le tableau, il ne nous parlait plus. Parce qu'il y avait trop de chiffres, trop de choses, trop d'informations, et on n'arrivait plus à visualiser. Donc ça, c'était une piste d'amélioration. On est passé donc de la forme de tableau à une forme avec un graphique qui permet rapidement de visualiser les paramètres. Par exemple, ici on a visualisé effectivement qu'il y avait un problème. Donc ça, c'était un problème fictif, c'était pour valider notre système. On a mis volontairement l'appareil en panne, on a déréglé un paramètre pour voir si nos tests étaient valables et si on détectait bien un changement dans les valeurs. Donc ça, c'était un outil de validation. Troisième point, c'était au niveau des collaborations. Donc là, c'était définir des procédures au niveau des collaborations. Donc ça, c'était un travail important parce que ça nous a permis de travailler donc là vraiment en équipe. C'est-à-dire qu'au niveau des collaborations et des prestations, on a réuni l'ensemble des acteurs qui participaient à ces prestations ou à ces collaborations. C'est-à-dire qu'il y avait les ingénieurs responsables des machines, les chercheurs impliqués, mais aussi la gestionnaire, les personnes donc la gestionnaire qui était impliquée dans les factures, mais aussi les services de valorisation de l'université pour tout ce qui était problème de propriété intellectuelle. Et on est arrivé, donc là je ne vais pas le détailler, à ce logigramme. Bon, ça il est un peu compliqué, mais ça a été très utile, quoique après ce que tu as montré, il est plutôt simple. Nous on le trouvait compliqué, mais bon, on voit qu'on peut faire toujours plus compliqué. Donc ce qui est important, c'est pas tant le logigramme en lui-même, c'est que ça a permis de mettre l'ensemble des acteurs ensemble et de travailler vraiment sur le processus des prestations et des collaborations. Et notamment de voir que dès l'acceptation qu'il fallait mettre une copie à la gestion, notamment au niveau des prestations, parce qu'il allait avoir une facturation et que la gestion en avait besoin. Et avant, ce n'était pas fait parce que les gens qui travaillaient ne voyaient pas l'utilité. Mais comme la gestionnaire était là, elle a pu expliquer que pour les facturations, ça lui facilitait la vie, ça permettait de faire les factures plus vite et donc de faire une rentrée d'argent plus facilement. Et donc à partir de ce moment-là, tout le monde a compris vraiment l'utilité de remettre une copie à la gestion et depuis c'est fait. Alors qu'avant, c'était demandé, mais ce n'était pas fait parce qu'on ne savait pas pourquoi il fallait faire ça. Donc ça a été vraiment quelque chose de très utile. Et ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que l'évolution du système qualité, c'est-à-dire que c'est un système qui vit. Par exemple, le groupe collaboration, on a défini la procédure, elle fonctionne bien, on la contrôle, pas assez à mon goût, mais parce que ça aussi, c'est un des problèmes, nous aussi, on est faible là-dessus, c'est qu'au niveau des indicateurs, on n'en a pas assez et on ne les contrôle pas assez. Mais par exemple, le groupe collaboration, lorsqu'on a eu fini nos procédures, qu'on a fait des fiches de prestation, des fiches de collaboration, bon, il n'avait plus vraiment de raison d'être, d'exister. Et les gens, au lieu de dire on arrête, ils ont dit non, on veut continuer, mais on va travailler sur le livret d'accueil. N'avait pas, et on a dit donc on va faire un livret d'accueil. Donc le livret d'accueil, ça a été aussi un problème. Donc c'est pour vous dire que une fois que ça a été enclenché, les groupes ont continué, ils ont changé d'objectif. Il y a des groupes qui se sont arrêtés. Donc par exemple, on a fait un groupe qu'on appelait compétences, c'était travailler sur la plaquette du laboratoire. Une fois qu'elle a été faite, elle a été imprimée, bon, il n'y en a pas eu vraiment besoin, donc celui-là il s'est arrêté. Mais par contre, il y en a un autre groupe qui devrait naître, là c'est quelque chose au niveau de la biblio, pour travailler sur une base de données pour la biblio du laboratoire. On a aussi un groupe qui veut travailler sur les risques professionnels. Donc ça, c'est des choses, des groupes, ils vivent, ils ont atteint leur objectif. On essaye de faire un suivi, mais après, une fois que l'objectif est atteint, on s'arrête et on reprend sur d'autres choses. Et lorsqu'un problème surgit, on a eu récemment un problème sur la gestion du parc informatique au niveau de nos différents spectromètres, et les gens ont dit, mais on va travailler en démarche qualité. Donc là, ça a été vraiment un besoin. Moi, je n'étais pas là, justement, en tant que responsable qualité, j'étais absent lors de cette réunion, et les gens ont décidé de travailler en démarche qualité avec un animateur qualité pour vraiment suivre et avoir un suivi au niveau de l'intranet et tout ça, chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Michel. Tu vas plus vous parler de la démarche en projet et aussi de ce que ça lui a apporté en tant que directeur d'unité au niveau du laboratoire. Et après, moi, je ferai une petite conclusion pour vous parler un peu des différentes possibilités et de ce qui existe au niveau des ressources entre guillemets, recherche qualité en recherche et en enseignement supérieur. Je vous dirai un petit mot là-dessus.
Merci beaucoup Henri. D'abord, je vais remercier donc le presse de nous avoir invités. Ça nous permet de montrer une petite expérience. Bon, par rapport à ce qu'on a vu ce matin, c'est bien, bien modeste. Mais enfin, disons que maintenant, on est très, très, très intéressés. Alors, comme l'a dit Henri, c'est un quatrième groupe qui s'est greffé, qui est le groupe Démarche en projet. Il était basé sur quoi? Il était basé sur le fait qu'on s'est rendu compte qu'un projet, bah, c'était le chercheur, certes, qui est au centre de ce processus. C'est-à-dire que sans chercheur, bah, sur personnes qui font de la recherche, il n'y a pas de projet, ça reste le cœur du métier, mais qu'un projet de recherche, bah, il est pas suspendu comme ça, au milieu de rien. Il y a un certain nombre de contraintes de gestion, de contraintes éthiques, de contraintes juridiques, quelquefois, enfin, pas mal de choses qu'il fallait prendre en compte. Et est-ce qu'on pouvait essayer de pouvoir un petit peu formaliser ça et pouvoir s'organiser? Alors, bon, pourquoi on a aussi, bah, bien sûr, on avait un certain nombre de choses. Enfin, le paysage politique aussi avait changé au niveau de la recherche, c'est-à-dire que on est passé à un système de financement sur projet. Donc, on a besoin d'aller chercher des financements à l'ANR, au niveau de l'Europe. Donc, pour ça, je pense qu'il était très important aussi de donner de la cohérence et du sens à nos actions, puisque si on donne du sens, on est capable de peut-être plus facilement les présenter, de les rendre un petit peu plus visibles pour les gens qui vont nous évaluer. Donc c'était vraiment un besoin. En plus, bon, bah, comme Henri l'a dit, ça c'est un point très, très important. On voulait absolument aussi continuer à mobiliser toute l'équipe autour d'objectifs définis en commun. Et bien sûr, quelque chose qu'on a toujours besoin, c'était de développer la communication entre les différents acteurs au niveau du laboratoire. Alors, on a donc fait, à partir de l'année 2006, on a conçu notre projet de laboratoire en mode de projet. C'est-à-dire que ça ressemblait plus à un projet type ANR ou un projet Europe qu'un projet, disons. Et c'était, bon, une volonté. Alors, on a eu la chance pour faire ça d'être très soutenu par la formation continue du CNRS, qui nous a offert l'accompagnement d'un consultant. Alors j'en parlerai un petit peu, parce que c'est quelque chose de très important. Donc nous, notre laboratoire, comme Henri l'a dit, on est donc un laboratoire qui est dans le domaine des sciences de la vie et des sciences pour l'ingénieur, donc enfin quelque chose. Et on a eu la chance d'être accompagné par un consultant qui était un sociologue, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait vraiment aucun rapport avec nos projets scientifiques, et qui était uniquement là pour nous parler de l'aspect organisationnel. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire qu'il n'était pas juge de notre science, mais il était juge de la manière dont on pouvait la présenter et l'organiser. Alors, il y a eu trois grandes étapes dans cette création de projet. Une première étape qui a été essayer de voir quelles étaient nos motivations, qui a impliqué donc l'ensemble du laboratoire. Ensuite, il y a une phase de diagnostic, c'est-à-dire qu'on a fait une analyse, un petit peu, une analyse, bah, ce qui, les intrants, les extrants, quel était le rôle de notre laboratoire? On produisait quoi? On recevait quoi? Quelles étaient, à notre avis, les forces et les faiblesses? Et puis enfin, un troisième groupe qui a fait le cadrage du projet. Alors, ce qui est important, c'est que le diagnostic et le cadrage ont été faits par deux groupes différents. Donc, ce qui permettait d'avoir une plus grande richesse, à mon avis, à ce niveau-là. Alors, pour la phase de motivation, ben là, je ne vais pas insister, ça, c'est propre à chaque laboratoire. C'est un petit peu quel est notre credo, je dirais, c'est-à-dire quels sont les points auxquels l'ensemble du laboratoire, parce que faire une politique scientifique, ben, c'est faire des choix, c'est-à-dire on peut pas tout faire, mais quels étaient les choix qui nous paraissaient les plus importants. Ça a été décidé, je dirais, ensemble. Alors, la seconde partie, c'est la phase d'analyse. Alors, quel était le groupe qui a fait cette phase de diagnostic et d'analyse? Bah, c'était un groupe qui avait un chercheur, un enseignant-chercheur, un ITA, un IATOS, deux étudiants, la gestionnaire et le DU adjoint. Alors, comment on a travaillé? On a travaillé donc avec des questions et le brainstorming, c'est-à-dire qu'on laisse un temps très très limité, on pose une question et puis, bah, on écrit sur un tableau bah, tout ce qui vient, et puis après on essaye tous ensemble de donner du sens à cette production assez spontanée et assez libre. Alors donc ensuite on a fait une analyse avec ce groupe de tout ce qui était les intrants, c'est-à-dire tout ce qui rentrait au laboratoire, ça allait des personnels, ça allait bien sûr les échantillons qu'on avait à analyser pour la RMN, c'était tout ce qui rentrait, tout ce qui sortait. Alors c'était des savoir-faire, des nouvelles connaissances. Bon, je ne sais pas, vous avez la liste est là, je ne vais pas vous faire ici tout le. Enfin, on a essayé de voir un petit peu quelle était la place du laboratoire dans son environnement, et puis quelle était notre action, quels étaient nos partenaires avec qui on intervenait, quelles étaient les relations qu'on entretenait, aussi bien institutionnelles que scientifiques que financiers. Ensuite, une étape qui maintenant a été généralisée, ça c'est très très bien, par l'AERES, c'est-à-dire une étape d'analyse force-faiblesse, c'est-à-dire ce qui nous paraissait à nous être nos points forts. Ça, c'est bon, on est toujours content d'essayer de se trouver des points forts. Et puis, ce qui est toujours un petit peu plus difficile, c'est essayer de voir quelles étaient nos faiblesses, parce que je pense que c'est très important d'essayer de les chercher, parce que c'est justement ensuite, comme l'a dit Thierry ce matin, en définissant des plans d'action pour corriger ces faiblesses, qu'on arrive disons, dans le processus d'amélioration continue. Alors, la troisième phase, ça a été donc la phase de cadrage. Donc là, ça a été fait par un groupe. Donc là, on a pris les responsables des thématiques scientifiques. Il y en avait six dans le laboratoire. L'ingénieur qualité, Henri, que je remercie tous les jours, parce que c'est sans le travail d'Henri, je dirais, en permanence dans le laboratoire, la démarche qualité n'aurait pas vu le jour. Et on a eu, bien sûr, pour cette phase-là, l'aide d'un consultant externe. Et j'insiste bien sur le fait qu'il était dans un domaine totalement différent de notre domaine, disons, de travail habituel. Alors, quelle était la méthode de travail pour cette démarche donc en mode projet? C'était relativement simple, c'est-à-dire que les réunions avaient une durée limitée, la parole était libre. Ça, je pense que c'est très important. Il y a eu des moments où il y a eu des explications, disons, franches et constructives à la fois. Il y avait deux règles qu'on a vraiment tenu de façon très très rigoureuse. Un ordre du jour, c'est-à-dire des commandes pour cette réunion. Qu'est-ce qu'on allait. Et puis ensuite, un compte-rendu, c'est-à-dire une production. Et on commençait toujours par examiner les productions de la réunion précédente et formuler de nouvelles commandes pour la réunion qui suivait. Donc c'était, je dirais, un processus qui était. Les règles étaient relativement simples, simplement, il fallait vraiment que l'on s'y tienne. Alors qu'est-ce qui a changé après au niveau des résultats? Eh bien, je dirais, il y a des choses qui sont restées pareilles. Alors, le projet qu'on avait fait au niveau du laboratoire pour le contrat quadriennal qui avait commencé en 2002 avait, bien sûr, un objet. Finalement, c'est sur quoi on va travailler. Des motifs, pourquoi on fait ce projet, ça on l'a toujours fait, ça n'a pas changé à ce niveau-là, et des objectifs généraux. Par contre, ce qui a changé avec le projet qu'on a eu en 2007, c'est qu'on a rajouté un certain nombre de rubriques que vous avez sur la colonne qui est sur la droite ici. Vous avez donc des objectifs spécifiques, c'est-à-dire des objectifs opérationnels, comme on appelle, qui devaient être validés par un élément livrable à la fin, quelque chose qui permettait de vérifier qu'on avait effectivement atteint l'objectif que l'on s'était fixé. On avait aussi défini beaucoup plus précisément un plan d'action. Comment on va s'y prendre? Comment on va essayer de s'y prendre pour atteindre cet objectif? On a essayé de faire aussi, ça c'était pas forcément toujours avec succès, le quand, c'est-à-dire essayer de faire un timing, c'est-à-dire essayer de. On a utilisé donc les fameux diagrammes de Gantt, de pertes, enfin des choses qui sont utilisées dans l'industrie. On a fait une analyse des risques, et puis bien sûr, on a essayé de voir comment on pouvait évaluer si on avait bien atteint nos objectifs, c'est-à-dire essayer de définir des indicateurs mesurables, quantifiables. Alors là, on a encore, je dirais, énormément à progresser, comme l'a dit Henri. Je pense que l'indicateur, c'est quelque chose qui se rôde, ça se fait pas en une seule fois. Mais je dirais, c'est quelque chose qui était vraiment un élément extrêmement important. Alors, quels ont été dans les résultats aussi quelque chose de très très important, c'est que on avait cinq groupes thématiques qui avaient chacun donc des projets qui étaient divisés en sous projets. Alors là, je ne vais pas les détailler, mais le fait de travailler ensemble et de concevoir ce projet, je dirais, dans cette démarche qualité où on travaille tous ensemble, eh bien, ça a permis de pouvoir identifier des liens très importants entre différents sous projets et de dégager des grands objectifs transversaux de l'unité. Donc c'était la première fois, je dirais, où on a commencé à faire apparaître une réalité, la notion d'unité. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient là pour faire des choses, atteindre des objectifs ensemble. C'est quelque chose quand même qui est important, je pense. Alors maintenant, je vais vous parler très, très rapidement de, bah, des, à la fois des principales difficultés, parce qu'il ne faut, faut pas cacher les choses, je pense qu'il y a des, il y a des difficultés en toute démarche, et puis aussi des bénéfices que l'on a pu en tirer. Et je me plaçais volontairement sur la seule chose que je connais, c'est-à-dire sur l'œil, je dirais, du directeur d'une unité. Après, je ne veux pas me mettre à la place de mes collègues, c'est eux qui pourront critiquer ou dire. Alors, d'abord, une chose très importante, c'est qu'il y a quand même une charge de travail en plus. Hein. Il faut programmer des réunions, il faut que les gens soient. Alors, bien sûr, même si on dit que la réunion c'est une heure, hein, c'est-à-dire qu'on se fixe, c'est pas trois heures. Si au bout d'une heure la réunion n'a pas été productive, bah, faut mieux la reporter que d'essayer de vouloir absolument en tirer des choses. Les réunions, c'est difficile à programmer quand il y a des gens qui ont différents emplois du temps, différentes contraintes, c'est pas forcément simple. Ça, c'est, je dirais, c'est la première chose qui nous a vraiment été pour nous, enfin, c'est un charge de travail en plus. Deuxième point très important, c'est un changement de culture qui est extrêmement important. Alors ça, c'est quelque chose qui est apparu, c'est-à-dire que c'est une démarche qui est appliquée dans l'industrie depuis une vingtaine d'années, dans le domaine de la recherche, dans le domaine que je connais un petit peu mieux, qui est les sciences de la vie. On est dans une culture quand même qui est assez, disons, individuelle, et c'est difficile de faire travailler les gens en groupe de travail. C'est pas forcément très simple. Il y a une certaine peur pour une indispensable liberté du chercheur qui s'est aussi manifestée. Est-ce qu'en faisant ça, ben, je vais pas être moins productif? Quelle va être ma liberté scientifique? On est tous attachés à ça, je dirais, et c'est vraiment un point extrêmement important. Bon, je crois que l'expérience nous a montré que ça n'a pas du tout été le cas, et que au contraire, les initiatives des chercheurs ont été plutôt valorisées, et je pense que c'est quand même le point extrêmement important. Alors les bénéfices. Alors la première chose, bah, je pense que ça a vraiment amélioré considérablement l'organisation du laboratoire, et ça, je pense que tous les jours, on peut le vérifier. Alors je dirais que la meilleure preuve de ça, c'est que dans le contrat qui a été soumis, parce qu'on fait partie de la vague A, donc on a donc soumis un contrat, on a été évalué par la EREs, la visite a eu lieu il y a trois semaines, et bien les gens ont tous voulu, en majorité, une écrasante majorité, même à l'unanimité, je dirais, travailler en mode projet. C'est-à-dire qu'on a resoumis les choses, c'est quelque chose, donc c'est, je dirais, si jamais ça les avait traumatisés, je pense qu'ils n'auraient pas voulu reprendre cette dynamique. Ensuite, bon, je pense que c'est quelque chose aussi qui nous a très performante pour accompagner le changement. Bon, je pense que dans un domaine de recherche, on est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire que bah, les sujets de recherche changent, l'organisation de la recherche change. Donc je crois que la démarche en mode projet, la démarche qualité en général, bah, c'est d'acquisition d'un certain nombre d'outils, de communication, de dynamique de groupe qui sont extrêmement importants pour qu'on soit, disons, qu'on puisse accompagner ce changement et le vivre de manière plus positive. En particulier, je pense que l'habitude à travailler en groupe de travail, comme le disait Henri, c'est quelque chose qui maintenant est bien rentré dans les mœurs, et je dirais c'est vraiment très 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 efficace. C'est-à-dire que ça permet de 1 plus 1, ça fait plus que 2. Hein. C'est-à-dire que quand on a plusieurs personnes qui vont réfléchir autour d'un même objectif, qui savent un petit peu les règles, alors c'est sûr qu'il a fallu les acquérir. Le brainstorming, bah, si on travaille sur post-it, bah, on se tait, on écrit sur son post-it. Si on travaille en réunion où on prend la parole, bah, chacun parle à son tour. Mais je dirais c'est des règles que l'on apprend à l'école. Hein. Ce n'est pas des règles qui sont insurmontables. Bon, je dirais, en ce qui nous concerne, ça nous a permis, bon, nous, de faire un important resserrage thématique, puisqu'on est passé de 5 thématiques à 2 grandes thématiques. C'est-à-dire, ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, notamment pour nos organismes, pour nos tutelles. On aime bien, et ça, je pense que c'est une très bonne chose d'essayer, tout en préservant l'indispensable liberté de chacun, bah, d'essayer de faire apparaître, disons, des grands axes qui peuvent être financés ou disons aidés. Bon, je pense qu'il y a aussi un point très important, c'est qu'on a eu une amélioration. Ça, c'est à notre échelle, une unité comme la nôtre, c'était quand même important. On n'avait pas eu de projet financé dans le contrat précédent. On a eu plus de succès au projet ANR et au projet européen. On a eu 7 ANR en 3 ans, c'est pas mal pour une petite unité comme la nôtre. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on est venu nous chercher pour 2 projets européens. C'est-à-dire, je pense que cette organisation n'est pas étrangère à ça. C'est-à-dire que bon, la science et nos chercheurs travaillent très bien aussi, mais je pense que l'organisation est aussi importante. Bon, c'est une plus grande aussi attractivité pour faire venir des étudiants, aussi des cliniciens, puisqu'on a une unité dans laquelle on a à la fois des étudiants, des gens qui ont du domaine scientifique, donc qui viennent du domaine hospitalo-universitaire. Et on a pu aussi augmenter les prestations pour les industriels. Alors je vais terminer avec un concept qui me paraît vraiment très très important. Moi, je ne sais pas que ce n'est pas un modèle qui est universellement utilisable, mais qui correspond bien au style de laboratoire comme le nôtre, c'est-à-dire un laboratoire qui fait une recherche transversale, interdisciplinaire, qui va travailler en réseau, ça c'est très important, et qui en plus a, comme l'a dit Henri tout à l'heure, la nécessité de piloter une plateforme. Vu le nombre de contraintes que l'on a, je dirais, autour de la recherche, qu'elles soient à la fois réglementaires, économique et scientifique, bah le modèle que l'on a essayé de mettre en place et qui a vraiment été publicité par les chercheurs, je dirais, c'est le concept de l'équipe projet. L'équipe projet, bah, c'est une équipe dans laquelle l'animateur de l'équipe, bah, c'est un chercheur qui va être la personne qui va porter, je dirais, le projet de recherche, mais qui va faire intervenir un ensemble de personnes qui vont être extrêmement utiles à cette recherche pour qu'elle puisse pouvoir se développer, pour que l'environnement soit adéquat. C'est-à-dire que dans l'équipe projet, on va faire intervenir bien sûr les équipes qui vont collaborer au niveau scientifique, mais aussi des personnes qui vont être dans le domaine de la qualité, de la gestion financière et de l'hygiène et de la sécurité. Parce qu'un projet, ce n'est pas quelque chose qui est suspendu comme ça, c'est quelque chose qui a besoin de s'établir dans un milieu et d'être bien adapté à ce milieu. Donc pour terminer, je terminerai mon exposé en vous disant que lorsqu'on a je pense que le point extrêmement important, c'est qu'on a souvent l'habitude de proposer un projet scientifique lorsque l'on fait un projet de laboratoire. Mais je pense que de plus en plus, on va devoir adjoindre à ce projet scientifique un projet aussi organisationnel. Et je pense que la démarche qualité, la démarche, la culture de projet, c'est des moyens simples qui peuvent permettre, d'aider à construire ce projet organisationnel qui va accompagner le projet scientifique. Voilà, je vous remercie.
Merci Jean-Michel. Oui, donc je voulais dire un petit mot d'abord sur les ressources au niveau de la qualité au niveau national et au niveau il existe plusieurs réseaux. Donc Antoine a parlé donc du PRESS, du groupe qualité au niveau du PRESS. Au niveau de l'université Bordeaux 2, il y a un chargé de mission, on a un espace qualité sur le site de l'université. Moi, je suis responsable du réseau démarche qualité en recherche au niveau du CNRS, donc au niveau national. Donc, c'est un réseau qui est soutenu par la MRCT, c'est la mission des ressources et compétences technologiques. Donc, ça, c'est ce qui existe au niveau du CNRS. Donc, c'est un réseau qui est là pour promouvoir, la démarche qualité en recherche et qui propose des formations en démarche qualité, qui est là aussi pour essayer de mettre en place des groupes de travail. Il y a un premier groupe de travail qui s'est mis en place sur la documentation qualité. J'aimerais bien mettre en place aussi un groupe de travail sur les outils qualité informatique, espace de travail collaboratif et tout ça. Donc ça, c'est des choses qui vont se mettre en place. On a eu nos premières rencontres à la mi-octobre, donc les rencontres du réseau à l'université de Bordeaux 2. Donc ça, c'est un réseau national qui est là, donc qui peut être une ressource. Il y a, Thierry en a parlé tout à l'heure, il existe aussi donc de manière historique, donc le réseau qualité en recherche du CNRS existe depuis 2 ans. Il existe une association qui s'appelle CARES, qui est à la qualité en recherche et en enseignement supérieur, dont le noyau dur se trouve à Montpellier. Mais enfin, donc ça, c'est une association qui est indépendante de toutes les institutions. Et donc, dedans, vous retrouverez donc des membres. Donc, moi, j'en fais partie, Thierry aussi, des membres du CNRS, des membres de l'INSERM, des membres de l'IRD, des membres de CEMAGREF, CIRAD, enfin bon. Et tous les ans, ils font une école qualité à Montpellier qui dure 3 jours, où on peut rencontrer énormément de gens et toute la démarche qualité au niveau des universités et tout ça, tous les gens se retrouvent là. Donc il y a aussi une potentialité ici. Est en train de naître un réseau qualité à l'INSERM, donc qui s'appelle RIC. Donc qui est animé par Eva Jensen, qui est aussi impliquée dans la qualité depuis longtemps. Donc là, c'est un réseau qui est tout récent. Ils ont eu une première réunion Au début de l'été, il y a une deuxième réunion à laquelle j'ai été convié, à laquelle malheureusement je ne pourrais pas assister le 17 décembre. Mais enfin bon, tout ça. Et il existe aussi au niveau de l'INRA un responsable qualité pour l'ensemble de l'établissement. Donc disons, il y a plein de choses qui existent. L'INRA a même un référentiel qui lui est propre, un référentiel qualité. Et si vous voulez, et tous ces réseaux se connaissent. C'est-à-dire que nous, on travaille lors des rencontres. Le président de CARES est venu, on a discuté ensemble et on va travailler, on va essayer de mettre en place des choses au niveau, notamment au niveau des publications sur la démarche qualité en recherche. D'ailleurs, à ce sujet-là, CARES a publié un livre qui a été diffusé, donc qui est des témoignages sur la qualité en recherche dans les laboratoires. Donc c'est une mine d'informations où vous pouvez voir plein d'exemples de tout ce qui existe. Donc tout ça, donc là vous avez ici, au niveau du réseau qualité en recherche, il y a une liste de diffusion qui existe, qui j'ai fait la dernière inscription hier. Et j'ai regardé, il y avait 240 personnes qui sont intéressées, donc c'est à cette adresse. Il y a l'adresse du site web. De toute manière, si vous avez besoin, vous m'écrivez et moi je suis, si vous voulez, j'ai à peu près toutes les informations. Vu que je navigue pas mal, je suis en contact avec les responsables de CARES, avec les responsables du réseau INSERM et aussi avec celui de l'INRA. Donc je peux centraliser toute l'information là-dessus, je peux pour rediffuser. Mais je vous invite à vous inscrire à la liste de diffusion pour avoir des informations. J'essaye de diffuser les informations au maximum là-dessus. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions.
Moi, j'aurais une question concernant l'état actuel de la diffusion de la qualité en recherche au niveau bordelais ou national, à votre connaissance. Est-ce qu'on sait à peu près quels sont les laboratoires dans lesquels, enfin la proportion de laboratoires dans lesquels on peut parler vraiment d'une démarche qualité-recherche déjà donc à Bordeaux ou bien plus généralement en France? Est-ce qu'il y a des études, des recensements un petit peu, des pratiques qui se sont développées depuis quelques années?
Alors le réseau qualité en recherche a commencé à faire un recensement des laboratoires CNRS. Alors on est parti sur une manière exhaustive, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va essayer de recenser tous les laboratoires et là on s'est heurté à un problème. C'est qu'il n'y a aucune instance qui centralise ce type d'information. Donc nous, on s'est basé sur les gens qui avaient suivi des formations de démarche qualité. Et donc l'écueil que l'on a rencontré à ce niveau-là, c'est que donc les informations dataient depuis 2002-2003, les premières formations réellement identifiées étaient là. C'est qu'on est un monde très mouvant. Des informations qu'on avait pu avoir qui dataient de 2002, elles n'étaient plus du tout valables. Et donc c'est vraiment un travail titanesque de recenser tout le monde. Donc on a une liste qui est plus ou moins à jour, que justement on ne diffuse pas parce qu'on n'arrive pas à la maintenir à jour. Donc là on va changer de stratégie et on va recenser certains laboratoires qui vont être volontaires ou que l'on connaît au départ en essayant de faire un recensement plus ciblé du style quel type de démarche qualité, est-ce que vous êtes certifié, est-ce que vous pouvez mettre à disposition des auditeurs, sur quel domaine de qualité travailler ou quel domaine scientifique, et on va uniquement cibler. En se disant que si on affiche ça, donc en demandant l'autorisation de l'afficher sur le site du réseau ou sur le site des CNRS ou de l'université, donc ça c'est pas un problème, en se disant que s'il y a d'autres laboratoires qui sont volontaires, s'ils voient qu'il y a des laboratoires affichés, ils auront peut-être envie de venir. Je parle ça d'expérience parce que j'avais fait une première liste et qui n'était pas exhaustive non plus, et c'est vrai que ça a suscité des demandes. Des gens ont dit qui m'ont demandé mais pourquoi vous êtes pas, pourquoi on n'y est pas. Je dis vous n'y êtes pas parce qu'on ne vous connaissait pas. Donc on va plutôt partir sur ce type de recensement.
Moi j'ai une petite question sur ce qui a été mis en place au sein du laboratoire. Donc vous avez décrit un certain nombre d'outils, de procédures qui existent. Qu'est-ce qu'il y en est des procédures de contrôle? Donc vous avez des revues de direction, etc. Comment vous assurez que effectivement les outils sont utilisés, que les produits sont bien décrits, que la procédure de mise en place des projets est effective? C'est formalisé au sein du laboratoire?
Là-dessus, on pêche un un peu. Au niveau de l'utilisation des outils, au niveau de notre intranet, il y a un contrôle interne. On sait combien de personnes sont connectées. Donc on voit si un outil est utilisé ou pas. Donc ça on l'a de suite. On peut contrôler. Effectivement, j'en ai pas parlé des outils qui n'étaient pas utilisés. J'avais mis en place un outil pour le contrôle métrologique des pipettes, par exemple. Et bon, ça c'est un outil qui j'en ai pas parlé parce qu'il n'est plus du tout utilisé. Il ne convenait pas du tout à l'attente des personnes. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi qui pêche. Donc ça, on a des contrôles de ce style. Après, l'application réelle des procédures, je le fais par des bilans en mesurant effectivement ce qui, par exemple au niveau des procédures, des prestations, en regardant combien de prestations ont été réellement formalisées, ont été utilisées au niveau des formulaires. Donc ça c'est fait relativement une fois par an. Mais effectivement c'est un point dans lequel il faut que l'on s'améliore. On n'a pas assez formalisé tout ce qui est ces indicateurs. Là, on est dans la phase où on a mis en place des choses qui tournent, mais on n'a pas encore d'indicateurs. C'est une étape dans l'évolution. Au départ, normalement, la démarche qualité dit qu'il faut mettre les indicateurs dès le début. En pratique, c'est vraiment très difficile. On a envie de faire des choses. Donc, nous, on est parti, on voulait que ça fonctionne. Et là, on est dans l'étape où il nous faut les indicateurs et il faut qu'on les mette en place et qu'on les suive.
Donc, sur l'INRA, tu l'as mentionné, en fait, il y a un référentiel qui est proposé en fait, au laboratoire. Et en fait, je trouve que c'est un outil qui a des limites, mais qui est intéressant puisqu'il permet de proposer finalement un guide pour les laboratoires, et ce qui permet probablement à l'INRA d'avoir une vue assez bonne en fait de l'évolution ou de l'engagement de ces laboratoires dans cette démarche qualité. Quelle est votre opinion à tous les deux sur l'utilisation d'un référentiel, quel qu'il soit celui de l'INRA ou d'un autre?
Alors, l'utilisation d'un référentiel en démarche qualité, a priori, est essentielle. Avoir son référentiel propre, ça peut être utile, quoique j'en suis pas vraiment convaincu, parce que si on regarde bien le référentiel de l'INRA, c'est le référentiel ISO 9001 qui a été un peu allégé sur certains points ou des choses comme ça. Donc, c'est peut-être pas la peine. L'avantage de l'INRA, c'est qu'il y a une vraie volonté de la direction de l'INRA au niveau national d'avoir une démarche qualité, ce qui n'est pas le cas dans d'autres organismes. Parce que faire un référentiel comme ça, c'est un très gros travail. Donc moi je pense qu'il y a, le référentiel ISO 9001 qui peut être utilisé, mais comme l'a dit Thierry, partir d'entrée sur un référentiel comme ça, c'est délicat. Il y a quand même un changement de méthode de travail et tout ça qu'il faut d'abord acquérir pour ensuite passer. Je pense que c'est dans une deuxième phase où on peut aller aussi loin. Et je pense que là, pour le moment, on n'est peut-être pas encore assez prêt.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Henri. Je pense que l'effort le plus dur, c'est pas tellement de viser par exemple, une norme, mais c'est surtout de faire la démarche. Une fois qu'on a lancé la démarche, qu'on a réussi à faire tomber cette roue de Ming, là, je pense qu'ensuite, je pense que le choix du référentiel est moins important que de motiver les gens pour pouvoir, disons, adhérer à la démarche qualité. L'effort, il est la décomposition de processus, il est en amont de ça. Après le référentiel, je dirais, on demande après ce qu'elle est. On se fait certifier par X, Y, Z. Enfin, alors quand même juste un petit point sur la norme, puisque la question est un petit peu sous-jacente. Je pense que pour un laboratoire de recherche, il y a deux difficultés. Il y en a une quand même qui est essentielle, c'est que si on a une norme et un jour on la perd, c'est pas très positif. Et puis ça coûte quand même relativement cher de faire des audits. Alors je pense que si on n'a pas la garantie de pouvoir le faire dans la durée, c'est quand même limitatif aussi. Donc par contre, la démarche qualité, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les moyens dont on dispose. Et de toute façon, tout le travail qui sera fait en amont sera déjà une première étape très importante prise si un jour on en a besoin pour raison X ou Y d'avoir besoin d'avoir une norme.